Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sebastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Nous sommes jeudi 22 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Encore du temps couvert ce matin, peut-être un peu de pluie là par endroit. Ça a tombé quand même un peu durant la nuit. Puis je sais que dans le secteur de Gatineau, on avait même de la grêle là. Mais ce matin, c'est autour de 18 avec ce ciel couvert. Ce qu'on prévoit pour la journée, d'abord, ça va se dégager un peu. Il y a toujours peut-être quelques gouttes de pluie qui pourraient s'inviter. Mais disons qu'il faut noter que les températures seront à la baisse pour atteindre 14 au cours de l'après-midi. Alors, couvert, un peu de soleil, mais surtout des températures plus fraîches. Durant la nuit, c'est autour de 8 degrés. Et puis, vendredi, on prévoit soleil-nuage, 13 degrés. Pour la fin de semaine, ça s'annonce très bien. Pas de pluie, mais des températures, disons, de saison. Soleil, nuages, 18-19 degrés. Je commence ce matin par trois événements sur la scène internationale qui sont majeurs. Et on pourra les détailler un peu plus tard avec Jean-François Lépine. Bien sûr, le chantage, la menace nucléaire de Vladimir Poutine dans ce message télévisé. Et c'est un message qu'on peut interpréter de plusieurs façons. Certains y voient une espèce de réplique devant les échecs répétés des forces russes et donc de la progression des troupes ukrainiennes dans les dernières semaines, un vent de contestation à l'intérieur du pays. Alors, ils présentent cette guerre comme étant non pas une invasion de l'Ukraine, mais comme une attaque que les Russes, que la grande Russie est en train de subir venant des forces occidentales, et que l'objectif ultime, c'est la destruction de la Russie. C'est un peu la propagande qu'ils livrent, et en disant, tout en utilisant ces mots, probablement, dans le pire des scénarios, l'arme nucléaire. Alors, évidemment, ça fait réagir la planète au complet, le président Biden, qui a été très clair, en disant que, évidemment, ça n'avait aucun sens de tenir des propos comme ceux de M. Poutine. Il a dénoncé ces menaces. Et partout dans le monde, même les Chinois prennent une certaine distance, rappelant l'importance d'avoir un dialogue. Alors, on a un Poutine qui était déjà isolé, qui l'est encore plus. Et vous avez sans doute vu les images des manifestants. Parce que dans ce qu'il a annoncé, c'est le rappel d'un potentiel de 300 000 réservistes militaires. Et beaucoup ne veulent pas y aller. Alors, il y a eu des manifestations, ça demeure limité. Parle de 1300 personnes qui ont été arrêtées, mais les images font le tour du monde et beaucoup tentent également de quitter le pays. Je lisais ce matin que les billets d'avion en partance de Moscou, par exemple, s'arrachent à des prix très, très élevés. Donc, premier volet, Ukraine et cette menace nucléaire. Deuxième chose, ce qui se passe en Iran, c'est pas banal non plus, où des femmes ont décidé de contester le régime, de ne plus porter le voile, et donc de se soulever. Et on voit ces images sur les réseaux sociaux, ces femmes qui enlèvent le voile, qui se coupent les cheveux, qui vont manifester. Et vous avez ces images prises de loin de bastonnades, des espèces, appelons ça les membres de la police religieuse, qui appliquent évidemment la loi coranique et qui s'assurent que les préceptes sont respectés. Et la suite des choses sera intéressante. Parce que c'est un soulèvement qui est quand même important. Est-ce que ce sera la répression? Est-ce que ce sera un changement, une ouverture, des assouplissements? La plupart, jusqu'à maintenant, s'attendent à ce que la répression frappe encore pour longtemps. Et ce qu'on a besoin de souligner, le courage de ces femmes qui se lèvent contre les imams, contre les dictats religieux et qui font face à cette répression qui est violente à certains moments, tout ça pour affirmer leur liberté. C'est quand même impressionnant. Et puis aux États-Unis, Trump, sa famille, poursuivi pour fraude, essentiellement pour avoir gonflé la valeur de ses actifs, pour avoir menti afin d'obtenir des prêts plus importants. Et il faut préciser que dans le cas de Trump, d'abord, c'est une attaque frontale, et s'il est reconnu coupable, il ne sera pas condamné à la prison, là, mais ça pourrait l'empêcher de poursuivre ses opérations financières, de brasser des affaires dans l'État de New York. Et bref, on l'accuse d'avoir truqué les chiffres pour aller chercher du financement pour certains de ses projets. Débat des chefs, ben c'est ce soir. C'est le dernier avant le vote, évidemment. Hier, tous les chefs étaient en mode préparation, sauf Dominique Anglade. Et est-ce que ça va changer l'allure du scrutin? Je rappelle les derniers sondages qui confirment un certain nombre de tendances. D'abord que la CAQ est en avance, parfois perd des plumes, parfois gagne un peu, ou à tout le moins tourne autour du 39-40%, ce qui lui assure un gouvernement fortement majoritaire. Ça, c'est le portrait. Pour ce qui est de la bataille de l'opposition, très difficile à dire. Notre sondage Segma hier indiquait que Québec solidaire s'était faufilé en deuxième position, que dans le cas d'Éric Duhaime et des conservateurs, relativement stable, sauf dans la région de Québec, on est dans le 25%. Et il y a une certaine percée du Parti québécois, puis de Paul Saint-Pierre Plamondon. Le vote d'estime de départ, là, les gens qui trouvaient, bon, ben, il se bat avec l'énergie pour sauver son parti. Est-ce que ça va l'amener à avoir peut-être deux députés? Est-ce que lui-même, dans son comté, on dit que la lutte est quand même assez serrée, va pouvoir passer? Bref, est-ce que le débat de ce soir va jouer? Mais tous conviennent d'une chose, en tout cas, c'est que M. Legault a intérêt à faire une bonne performance, parce que lors du premier débat, il a été carrément mauvais. Il avait l'air agressif, puis tanné, puis fatigué, puis pas quel est son état d'esprit. Et ce que j'ai hâte de voir, parce que là, si c'est Québec solidaire qui se positionne d'eux, là, jusqu'à quel point on va challenger Québec solidaire sur, appelons ça, les racines même du parti, qui est la place de l'État dans nos vies. Puis je serais intéressé d'entendre même un échange entre Duhaime et Dubois là-dessus. C'est-à-dire, d'un côté, quelqu'un qui veut, parce que c'est un libertarien, sortir l'État à un point tel que tu te demandes comment il va faire ça puis quels seront les services offerts pour vrai aux citoyens. Puis de l'autre côté, celui qui veut mettre l'État partout dans nos fonds de pension, dans un paquet d'organismes pour gérer la vie au nom de l'égalité sociale puis des changements climatiques. Ce sont deux philosophies qui s'affrontent. Il va être intéressant de voir jusqu'à quel point on va sortir là des effets de toge un peu pour attaquer des sujets de fond. Donc ce soir, c'est présenté 20h sur Radio-Canada. Parlons maintenant de André Fèvre, qui est un pédophile et qui considère que la pédophilie est acceptable. Louis-Samuel Perron de La Presse a obtenu cette décision de la Commission des libérations conditionnelles qui fait en sorte que Fèvre, 74 ans, puis je vous parlerai un peu du personnage dans deux instants, va obtenir ce qu'on appelle une libération d'office. C'est comme si on n'a pas trop le choix de le libérer. J'y reviendrai plus tard dans l'émission, notamment avec le journaliste Yves Thériault. Qui est André Fèvre? André Fèvre est un pédophile avec des antécédents criminels, toujours de même nature, et c'est extrêmement volumineux. Il a agressé des enfants, il était en position d'autorité avec des enfants, il a enseigné à son club social comment approcher des parents pour pouvoir approcher des enfants, fait partie de cette mouvance où on considère qu'un adulte qui a des relations sexuelles avec un adolescent, par exemple, de 12 ans, 13 ans, c'est correct quand il n'y a pas de violence puis qu'il y a un consentement d'un enfant de 12 ans. Donc, depuis les années quoi, 80-90, il a accumulé les accusations et les condamnations. Je vous donne juste quelques exemples. Il a agressé un ado qui avait des retards de développement. Puis comme tous ces gens-là, ça se faufile à l'intérieur du système pour occuper des postes près des enfants, près des ados. Il était devenu éducateur dans un foyer d'accueil pour des jeunes. Et il a fait un paquet de victimes. La dernière fois qu'on l'a arrêté, c'est dans le cadre de l'opération Malaise. L'opération qui a permis de démanteler ce qu'on appelle un club social de pédophiles. Des gens qui ont cette déviance et qui se retrouvent ensemble, souvent de façon virtuelle, plutôt rarement en présentiel, mais quand même. Et Fèvre était leur gourou. Il l'est encore, je peux vous dire ça. Et on échange. On partage des images. On partage des trucs. Et on partage cette philosophie. Je ne devais pas en parler tout de suite parce que on devait l'annoncer plus tard, mais le fait que Fèvre soit libéré d'office, avec des conditions à respecter, là, ça, on s'entend, je prépare, c'est prêt, là, une série documentaire, 3 épisodes, sur les cyberprédateurs. Ça va être présenté dans quelques semaines, en octobre, là, sur la plateforme Vrai, puis après ça sur TVA. Et j'ai interviewé des prédateurs, des victimes. On a eu une collaboration extraordinaire du SPVM pour assister à des opérations, parler à ces femmes, à ces hommes qui travaillent à l'unité d'exploitation sexuelle des enfants. Je vous en reparlerai, mais l'objectif, c'était aussi de parler à Fèvre. Pourquoi? Parce qu'il y en a un certain nombre. Ils sont pas tous comme ça, les pédophiles. Il y en a qui considèrent qu'ils vivent avec une maladie. Ils sont pas bien. Mais Fèvre, lui, il dit que c'est normal. Puis il y en a quelques-uns. L'objectif, c'était de le confronter là-dessus et surtout de parler à l'agent infiltrateur, celui qui a permis qu'on l'arrête, celui qui s'est fait passer pour quelqu'un qui avait des pulsions, qui est entré en contact avec Fèvre, tranquillement, en ligne. Après ça, quelques rencontres où Fèvre a fait des aveux, notamment, et c'est dans le rapport de la Commission des libérations conditionnelles, sur des victimes, donc des ados qu'il a agressés et qui n'ont jamais porté plainte. Et pour ces agressions, il n'a jamais été accusé. J'ai donc parlé à Fèvre pendant une quinzaine de minutes alors qu'il était détenu au Centre fédéral de formation. Je ne suis pas un psychiatre, je ne ferai pas d'évaluation. Mais quand je tente de comprendre qui est ce bonhomme-là, là, ma conclusion est pas mal rapide et j'ai mis fin à la conversation après 15 minutes et j'ai dit, il n'y en aura pas d'entrevue. Parce que c'est un manipulateur, c'est un narcissique. Dans le rapport, c'est clairement indiqué qu'il présente un risque élevé de récidive. On a beau y mettre toutes sortes de conditions, là. Lui, il veut renouer avec ses amis, les boys lovers, puis il veut renouer avec son passé. Puis il y a plein de gens qui sont à l'extérieur, qui sont toujours dans sa cour, je dirais, pas très loin, pour le soutenir. Et sérieusement, tu te dis, mais comment ce gars-là peut être remis en liberté, malgré là, les conditions? Monique Néron, qui a suivi le procès, sera aussi avec nous. Et j'en profite, parce que j'aurais voulu lui parler pour cette série documentaire, ça n'a pas fonctionné, peut comprendre. C'est le travail remarquable de l'agent infiltrateur. Imaginez, là, vous êtes un policier, vous êtes père d'enfant, puis votre job, c'est d'infiltrer un réseau de pédophiles qui se partagent des trucs. Il y a de l'info qui circule. Comment approcher les parents? Comment séduire les enfants? Prenez votre temps. C'est ce que Fèvre disait, entre autres, à l'agent. J'ai lu son témoignage dans le détail. Mais de dire, là, ce matin, ce gars-là sort de prison, c'est à n'y rien comprendre. Mais c'est quand même malheureusement ça. La réalité. Regardons rapidement les autres nouvelles ce matin. Journal de Montréal, c'est pas de nouveau dans la mesure où on le sait qu'il y a du temps supplémentaire chez les policiers du SPVM, les policiers qui doivent travailler pendant 2 quarts de travail consécutifs. Et on peut comprendre le potentiel d'épuisement puis le potentiel d'erreur attaché à ça. Et on le disait, le fait qu'on est allé créer une escouade, qu'on a pris des policiers et policières un peu partout, ben c'est sûr que ça vient encore davantage fragiliser dans un contexte où il manque de policiers à Montréal. Puis Radio-Canada nous apprend que le chef de police, Philippe Pichet, est de retour. Lui qui a été tassé, lui qui poursuit le SPVM, ben finalement, ils ont décidé de l'intégrer. Et il va occuper des tâches quand même importantes, là. Il va diriger toute l'opération d'un bon nombre de postes de quartier. Alors, l'info a circulé quand même rapidement. Et là, je ne sais pas si la poursuite est réglée ou si ça va continuer. Donc, il va gérer une vingtaine de postes, ce qui inclut le poste de l'aéroport de Montréal. Également, ce matin, j'attire votre attention sur cette nouvelle de Thomas Gerbet, toujours de Radio-Canada, concernant l'éclosion, en fait la présence d'un super champignon mortel qui inquiète beaucoup. Et ça se passe à l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil. Il semble-t-il que c'est suivi à un très haut niveau parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Les employés, paraît-il, ne savent pas qu'il y a ce champignon. Selon des sources en santé publique, les autorités ont demandé aux personnes informées de faire preuve de discrétion. Fait que là, j'imagine, il y a bien des gens de Pierre-Boucher, du personnel qui m'écoute ce matin, là, qui vont peut-être l'apprendre de cette façon-là. Et ça s'attaque principalement aux gens qui sont hospitalisés, des gens qui sont déjà faibles sur le plan immunitaire, ou encore des gens qui ont subi une chirurgie, qui ont des traitements intraveineux. Et le potentiel d'être gravement malade, voire même d'en mourir, est assez élevé, 30 à 60 % de risque de mourir. Ça a été détecté, semble-t-il, le 8 septembre, chez un patient de 65 ans qui était traité pour une pneumonie. Le cas confirmé le 15 septembre, puis il y a eu un deuxième cas le 19, puis la personne est décédée le lendemain aux soins intensifs d'une autre cause. Et dans aucun cas, ce sont des patients qui revenaient de l'étranger. Je pense que les autorités, de Pierre-Boucher ou du centre de santé puis de services sociaux, là, devraient se manifester puis pas jouer à cachette, là. Il s'agit pas de faire peur au monde, il s'agit de donner l'heure juste pour savoir exactement ce qui se passe. Et est-ce qu'on va avoir d'autres cas comme ça? Peut-être. Surtout qu'avec les changements climatiques, variations de température, il peut se produire des choses ici qui auraient été impensables il y a quand même un certain nombre d'années. Donc, Radio-Canada a ça ce matin. Puis, je veux finir avec l'accès à la propriété. On a des chiffres qui nous montrent ce matin que, même si on a souvent dit, les Québécois, c'est un peuple de locataires. C'est encore vrai. Je l'ai moins, bien sûr, là. Mais on est quand même, en termes de propriété, une des provinces où le taux est encore le plus bas, si c'est pas le plus bas, même s'il y a plus de gens qui ont maintenant une maison, qui sont propriétaires, un condo, là. Mais la combinaison de l'explosion du prix et des taux d'intérêt, ben, ça fait en sorte que ça devient un rêve inatteignable pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Des gens qui se disent, je pensais être capable, puis ça arrivera pas. Hier, aux États-Unis, augmentation des taux, encore une fois. Puis ça risque d'augmenter dans les prochains mois. Les économistes qui laissent entendre que le début de 2023 va être difficile. Si vous avez surveillé un peu les marchés hier, encore là, une claque suite à l'augmentation du taux d'intérêt aux États-Unis, le taux directeur. Alors, si vous êtes un jeune, puis votre rêve, c'est d'être propriétaire, disons que ça devient un rêve à repousser peut-être à plus tard. Puis il y a un jeune, puis je vais finir là-dessus, qui m'a écrit, qui travaille depuis que 16 ans, qui met de l'argent de côté, puis que lui, il veut être propriétaire dans la vie. Il dit, je veux acheter une petite maison tranquillement, puis après ça, m'acheter une deuxième, puis avoir des enfants. Tu sais, là. Puis il est découragé parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas capable, avec son salaire actuel, puis avec les bonnes économies qu'il a accumulées, de devenir propriétaire dans les prochains mois, puis même peut-être la prochaine année ou deux.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
André Fèvre est un pédophile actif depuis des années. Il a accumulé les crimes. On parle ici, évidemment, d'agression sur des jeunes garçons. Je vais revenir sur son dossier tantôt parce que il a obtenu ce qu'on appelle une libération d'office, même si on considère qu'il représente un risque élevé de récidive, que c'est quelqu'un qui pense que la pédophilie, c'est normal, que c'est acceptable, et que c'est quelqu'un qui et je vous expliquerai après pourquoi, considère que d'avoir une relation sexuelle avec un jeune garçon de 12 ans, c'est tout à fait correct, qu'il est né probablement à la mauvaise époque, dans la mesure où il n'y a pas de violence, puis dans la mesure où il y a, appelons ça un consentement, il fait partie de cette mouvance des « boys lovers ». Donc, on en parle ce matin parce qu'il vient d'obtenir cette libération. C'est le journaliste Louis-Samuel Perron de La Presse qui a obtenu la décision. Monique Néron est de retour en studio avec nous ce matin. Elle est journaliste, vous le savez, travaille à Radio-Canada. Mais à l'époque, elle était ici puis elle avait couvert le procès qui découlait de l'opération Malaise. Monique,
oui,
bonjour.
Bonjour, Paul.
Raconte-nous d'abord l'opération Malaise. C'est quoi exactement?
Je me souviens comme si c'était hier d'être entré en studio ici en te disant qu'il y avait une quinzaine d'individus qui venaient d'être arrêtés dans le cadre de cette opération-là, des hommes de 27 à 74 ans. Et on avait l'habitude des frappes pour pornographie juvénile. Mais là, ce qu'on disait, c'est que ces individus-là étaient passés à l'action pour la plupart dans la vraie vie. Mais plus encore, le terme « club social de pédophiles ». Parce que le policier qui me parle ce matin-là, je m'en souviendrai toujours, m'avait dit « là, c'est un autre niveau, là ». On n'a jamais fait une frappe de ce type-là. On parle de gens qui s'échangeaient des trucs et conseils pour abuser d'enfants sans se faire prendre. Et à la tête de ce groupe-là, donc le chef de ce club social-là, parce que c'est resté là ce terme-là, André Fèvre, qui lui avait des compétences informatiques, avait mis sur pied un serveur pour crypter, pour protéger les communications. Donc, c'était une frappe d'envergure. 11 perquisitions, on s'en souvient. Et ça avait marqué tout le monde parce que là, on découvrait petit à petit qu'est-ce que ces gens-là faisaient dans leur temps libre, c'est-à-dire se rencontrer et se raconter, par exemple, autour d'un vin et fromage à la Saint-Jean-Baptiste, leurs aventures avec des enfants. Et tu parles de normalité, c'est ce qui est le plus frappant dans toute cette affaire-là parce que ces gens-là normalisaient vraiment leur relation avec des enfants étaient allés jusqu'à fonder un OBNL, imaginez, un OBNL qui il y avait une boutique où on pouvait vendre des objets dérivés de leur déviance, là, disons les choses comme elles sont. Par exemple, des pendentifs pour BLBL, ça veut dire boy lover, et les garçons abusés étaient des love boy. Donc tout ça, on avait appris ça, et là est arrivé le procès ensuite.
Et là, faut comprendre, là, c'est une mouvance qui est pas strictement au Québec. Là, on comprend que il y a des penseurs du même genre un peu partout dans le monde. Mais Fèvre, c'était vraiment le gourou. Là, c'était vraiment celui qui dominait les autres. Et ce qui est intéressant dans le procès, c'est que la Sûreté du Québec a utilisé un agent double, quelqu'un qui a infiltré, qui s'est fait passer pour quelqu'un qui avait des pulsions vers les enfants.
C'était un témoignage qui s'était tenu à huis clos. J'avais obtenu les documents à l'époque et donc passé en revue chaque mot qui a été prononcé dans la salle de cours. Cet agent-là s'était infiltré dans le club social de pédophiles pendant 9 mois. Imaginez, il a joué quelqu'un qui était attiré par les garçons de 10 ans pour aller chercher la confiance de ces gens-là, pour infiltrer, pour assister à ces fameuses rencontres d'échanges de trucs et conseils auxquels il a eu droit, soit dit en passant. On lui a très bien expliqué de façon claire, précise, comment s'approcher d'enfants, gagner la confiance des parents, gagner la confiance des enfants pour ne pas se faire prendre. Finalement, on dit que ça pouvait prendre jusqu'à 2 ans, par exemple, pour installer un lien de confiance, que c'était mieux d'aller dans les lieux défavorisés parce que les parents sont moins là. Évidemment, les organisations scouts, deviennent un entraîneur sportif, ou plutôt un foyer d'accueil, ce genre de trucs-là. Et l'infiltrateur, donc, a raconté, quand il a rencontré Fèvre pour la première fois, que Fèvre lui a dit avoir rencontré des milliers d'enfants dans sa vie sur une période de 60 ans. Il était entouré d'enfants en permanence et il avait chez lui deux valises remplies, et ça aussi, ça m'a marqué, de son butin. Son butin, c'était des archives, des photos, des vidéos, des clés USB des enfants qu'il avait côtoyés. Et donc, 9 mois qui ont permis, évidemment, il portait un body pack là, à l'époque, on s'en souvient, ça a permis d'enregistrer tout ça. Et au procès, je me souviens aussi, et tu vas sûrement t'en rappeler, André Fèvre a témoigné. C'était assez étonnant en défense. Hein. Et ça aussi, ça m'a marqué. Je me souviens, j'étais la seule journaliste dans la salle cette journée-là. Je le vois encore arriver, Paul, habillé en jeans, la tête aux pieds, il y avait une croix dans le cou. Puis, il est arrivé, puis il s'est auto-incriminé devant le juge. Il a raconté justement cette normalité-là, que pour lui, il n'était pas un abuseur, mais bien amoureux des enfants et que les enfants pouvaient consentir. Donc, c'était quelqu'un pour qui c'était tellement ancré que c'était déstabilisant et complètement surréaliste de le voir comme ça faire des aveux devant le juge.
Même si c'est en appel du verdict là, qui le concerne, mais c'est quand même... Je veux raconter aux auditeurs maintenant, puis on va parler avec Yves Thériault, là dans quelques minutes, mais j'ai parlé à André Fèvre il y a quelques mois. Et je devais pas en parler tout de suite, parce que c'est une série documentaire qui va être présentée au mois d'octobre, d'abord sur la plateforme Vrai, puis après à TVA, sur les cyberprédateurs. Et mon objectif, c'était de parler à ces gens qui considèrent être nés à la mauvaise époque, que si Samuel de Champlain avait une conjointe de 13-14 ans, pourquoi pas moi aujourd'hui? Ces gens-là s'appuient sur une pseudo-littérature scientifique que certains m'ont partagée. Et donc, je l'ai appelé. Il était au Centre fédéral de formation. On a eu un échange par lettre au début. Ça a été assez compliqué. Et donc, l'objectif, c'était de lui parler, puis parler ultimement à l'agent infiltrateur qui a fait un job remarquable. Pensez à un policier, père de famille, qui a des enfants, qui tous les jours, sa job... c'est de traquer un pédophile puis de jouer au pédophile avec lui pour obtenir des aveux. Entretien qui a duré 15 minutes. Je suis pas un psy, là, puis je vais pas prétendre ou déposer ce matin un rapport d'expertise, là. Mais ce gars-là est un malade. Il est dangereux. D'abord, c'est un narcissique. C'est quelqu'un qui peut exercer un ascendant sur les autres, qui sont, mettons, plus vulnérables, moins équipés, qui partagent le même type de déviance. Et c'est comme ça qu'il a manœuvré pendant des années, comme éducateur, pour pouvoir abuser. Puis c'est la logique des choses. Tu trouves une job pour être près de tes victimes. Dans la série documentaire, j'ai interviewé des pédophiles. Mais le cas Fèvre est unique. Puis quand j'ai terminé cette conversation-là, je me suis dit non. Mettrais pas ça. Et lui me posait toutes sortes de conditions. Je veux voir vos questions. En un mot, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Les autres pédophiles peuvent l'être aussi. Dans la série, j'ai parlé à un gars qui en collectionne, puis il a 35 000, 40 000, 50 000, puis s'est fait arrêter. Je suis allé à la prison de Percé rencontrer deux abuseurs d'enfants. Je vous donnerai pas tous les détails, mais le cas de Fèvre est vraiment un cas unique. Comme Monique disait, habituellement, c'est des saisies, des arrestations de matériel, porno, juvénile, distribution,
mais là, production. Ça allait beaucoup plus loin.
Là, on parle d'un quelqu'un qui donne des trucs, là.
Moi, j'avais mis la date de sortie de ce gars-là dans mon agenda. Puis j'ai pas fait ça souvent, là, parce que je me suis dit, c'est le genre de personnes, on pourrait se retrouver avec des exemples, comme on avait vu un des cas très, très marquants, Steve Urdahl, qui, lui, est exactement les mêmes circonstances. Délinquant en contrôlé, il sort après avoir abusé un enfant dans un Dolorama. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Après sa sortie, il se ramasse dans une piscine publique, il barre la porte avec une petite fille de 5 ans, en prétextant vouloir l'aider à attacher ses souliers. Et évidemment qu'on ne suit pas ces gens-là à la trace, non. Minute par minute. Dans ce cas-ci, j'aurais osé espérer, au moins considérant le risque qu'ils représentent et l'inquiétude de tout le monde autour dans cette affaire-là, qu'on se questionne à savoir est-ce que vraiment la libération de fils ici... on l'applique.
Ben, on va en parler avec Yves oui. Thériault tout de suite parce que, bon, Yves, évidemment, suit ces questions-là. C'est l'auteur du livre « Tout le monde dehors ». Yves, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pourquoi une libération de fils? Mon collègue Crête s'est dit ce matin d'entrée de jeu, mais comment ça se fait que ce gars-là s'y est considéré dangereux, que le niveau de récidive est élevé? Pourquoi on le laisse sortir?
Ben, en fait, la libération de fils, c'est un principe en vertu duquel tous les détenus qui sont dans des pénitenciers fédéraux, donc qui sont condamnés à des sentences de 2 ans et plus, sont libérés automatiquement aux 2/3 de leur sentence. Peu importe leur comportement en prison, peu importe qu'ils aient suivi des programmes ou pas, aux 2/3 de leur sentence, tout le monde sort. Et c'est ce qui est arrivé avec André Fèvre, pardon. Il a été condamné en 2020 à 12 ans de prison. Mais comme il avait déjà passé 4 ans en prison, il a été arrêté en 2016. Donc, ce temps passé en prison comptait en double. Donc, on a déduit 8 ans de sa sentence. Donc, il restait 4 ans à purger. Et au bout de 2/3 de 4 ans, donc, il est admissible à une libération d'office. Mais ce qui est inquiétant, Paul, quand on lit la décision de la commission des libérations conditionnelles, c'est qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Et tu as été en mesure de le constater quand tu lui as parlé au téléphone. Je te lis des extraits de la décision. Votre niveau de responsabilisation et de motivation est faible. Les intervenants sont d'avis que le risque de récidive en matière de crimes sexuels envers les mineurs demeure élevé à ce stade-ci. Vous n'avez fait aucun progrès concernant les facteurs qui contribuent à votre criminalité. Vous avez l'intention de renouer avec d'anciens compagnons pédophiles. Bref, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas changé depuis son arrestation en 2016 et c'est à peu près certain qu'il va recommencer.
Mais là, je me mets à la place de l'auditeur qui t'entend, là, mais qui dit « OK, mais pourquoi on le laisse sortir pareil? Là? Y a-t-il un moyen de le garder en dedans ou si, comme tu dis, c'est pratiquement un automatisme? »
Bien, en fait, oui, on peut le garder en dedans. Il y a un mécanisme qui s'appelle le maintien en incarcération, mais on l'utilise presque plus maintenant depuis quelques années. Il y a des gens comme pense à Miles Sanderson, là, le forcené là, qui a tué une dizaine de personnes là, dans une réserve autochtone en Saskatchewan. Eh bien, Miles Sanderson était en libération d'office et durant sa libération d'office, il avait manqué à ses conditions à 28 reprises et on ne l'a pas ramené en prison. Et pense à Eustachio Galizé, par exemple, qui fréquentait des escortes. Et quand la commission a été informée de cette situation-là, on lui a donné une petite tape sur les doigts, mais on l'a remis en maison de transition. Il est arrivé, ce qui est arrivé, donc le meurtre de Madeleine Lévesque. Alors, présentement, les commissaires aux libérations conditionnelles qui ont été nommés par les libéraux depuis que les libéraux ont repris le pouvoir, ben c'est, excuse l'expression anglaise, là, mais c'est des rubber stampers. C'est des gens qui libèrent tout le monde et c'est extrêmement préoccupant.
Merci beaucoup, Yves, de cet éclairage. Ça en dit pas mal long.
On peut croire en la réhabilitation. Je pense qu'il faut croire en la réhabilitation, mais dans des cas comme celui-là, Paul, on l'a échappé trop souvent. Et là, c'est quasiment prévisible ce qui pourrait se passer. Et on fait quoi maintenant avec ce genre de situation-là?
Je peux te dire une chose. Ça fait 2 ans là, qu'on travaille ça là, pour la série documentaire et ces gens-là se fréquentent. Il y a eu plusieurs arrestations. Puis habituellement, ils plaident coupables assez vite, dans beaucoup de cas. Mais ce réseau-là n'est pas éteint. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés, qui servent un peu de point de chute d'intermédiaire. Puis, comment tu vas vérifier que Fèvre n'ira pas renouer? Puis il dit, à part ça, qu'il a de l'intention puis qu'il veut propager la bonne nouvelle. C'est un peu ça qu'il raconte. Puis je vais juste vous montrer, en fait, vous raconter une anecdote qui est dans la série. On a travaillé avec les policières et les policiers de l'unité qui s'occupe de l'exploitation sexuelle des enfants. Ce sont eux qui font les arrestations, les boss, comme on dit. Et puis, on les a accompagnés avec l'équipe, le réalisateur, André Saint-Pierre. Puis, on a arrêté le gars. En fait, la police a arrêté le gars. Puis là, on s'est mis à regarder autour. Le gars avait son appart en face d'une garderie, de billets avec une école primaire. Et moi, j'étais un peu bouche bée. Et celle qui dirigeait l'enquête m'a dit, c'est assez fréquent. C'est pas une énorme surprise. Et quand je dis directement en face, c'était la cour extérieure de la garderie qui les jouait. Alors, si tu dis, mais c'est vrai que la réhabilitation, puis ils sont pas tous comme ça. J'ai vu des pédophiles, là, c'est une maladie, puis heureusement, j'ai été arrêté, puis je vais m'en sortir. Là, puis les policiers nous disent la même chose. Mais lui, là, c'est un mode de vie. Puis
il fait ça pendant 60 ans.
60 ans à selon plusieurs
son propre
reprises.
Aveu. Exact.
Exactement. Monique, merci beaucoup d'être venue.
Plaisir.
Monique Néron, journaliste, animatrice à Radio-Canada. C'était Yves Thériault. C'est ce genre de personnage-là, tu peux pas croire qu'on a laissé ou qu'on est en train de laisser sortir ça malgré toutes les conditions qu'on a beau mettre. l'Ukraine, Moscou, évidemment les États-Unis avec ses procédures contre l'ancien président Trump et la situation en Iran. On fait le point. Jean-François Lépine est avec nous. Jean-François.
Bonjour, Paul.
Bon, alors, c'est une journée importante. Là, c'est un changement de ton de la part du président Poutine. C'est un discours qui, à la fois, vise sans doute à mobiliser sa population, mais la réponse des alliés est venue assez rapidement de l'Occident aussi.
Ben, c'est parce qu'on joue avec des choses... dangereuse. Là, on dit que on garde nos objectifs, c'est ce qu'il a dit en Ukraine, et on est prêt à utiliser toutes les armes dont on dispose pour y arriver. Alors, c'est là que ça a suscité énormément de colère des alliés de l'Ukraine et de l'Ukraine. Mais il faut, Paul, je dirais que à nos auditeurs, il faut écouter et ou lire, parce que le Washington Post, entre autres, en a diffusé une version écrite, ce discours-là. C'est un discours, honnêtement, de paranoïaque, où on parle encore d'un gouvernement nazi en Ukraine qui extermine des Russes. On décrit un portrait de la réalité qui est complètement faux, d'abord, comme si les Russes eux-mêmes n'avaient pas d'informations. Or, il y en a de l'information en Russie, même si les médias de masse ne parlent pas de cette guerre-là ou en parlent en des termes complètement différents de la réalité. Donc, ça vaut la peine de lire ça pour comprendre ce personnage-là.
C'est comme si la Russie était ciblée par l'Ouest.
Tout à fait.
Comme étant le pays à abattre et qui, lui, doit défendre son peuple.
Ben là, c'est ce que tu disais. Il passe à un autre cran. Parce qu'il dit, l'Ukraine nous fait ce qu'elle nous fait, parce qu'il y a, évidemment, l'Ukraine reprend des territoires conquis par les Russes. Elle fait ça parce qu'elle a des armes de l'Ouest. Donc, c'est à l'Ouest maintenant qu'il s'attaque et non plus à l'Ukraine. D'où cette mobilisation partielle. C'est important parce qu'on prévoyait qu'il allait y avoir quelque chose du genre. Il y avait même des gens qui disaient qu'il va y aller avec une mobilisation totale. Mais on voit qu'il y a tellement d'opposition en Russie à cette guerre qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. En d'autres termes, il n'est pas allé jusqu'à prendre les jeunes, hein, qui ont aucune expérience militaire, puis à les conscrire, comme ça se fait dans... Et c'est la première mobilisation du genre dans le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est important. Mais il faut voir les choses derrière. Il va falloir quand même, c'est tout des réservistes, il va falloir les réentraîner, les motiver, leur fournir du matériel. C'est tout ce qui manque actuellement dans la stratégie russe, sans parler aussi des problèmes de commandement. On dit que tout ce qui se passe sur le terrain est complètement mêlé de contradictions et tout ça. Donc, l'Ukraine a le temps de faire d'autres gains. Ça arrivera pas demain matin. Et puis, si en plus, il envoie des réservistes tout de suite sans formation, ça va être un carnage et les cercueils vont revenir en Russie. Et donc, l'Ukraine a le temps de faire des gains, c'est ce que je viens de dire, mais c'est un signal aussi que ça peut être long. Ça veut dire qu'il va prendre le temps de le faire, à moins qu'il y ait un miracle dans tout ça. Et puis, je pense que tu l'as évoqué plus tôt, ce matin, il y a une réaction immédiate en Russie, des manifestations partout, on a vu les images, mais aussi les gens qui achètent des billets d'avion, qui veulent sortir, des jeunes en particulier, qui vont être ciblés par cette chose-là. Donc, il y a aussi cette annonce qui vient avec la dénonciation de l'Ouest, là, qu'il va y avoir des référendums dans les régions qui ont été reconquises par les Russes, hein, comme Kherson, comme tout le Donetsk, le Donbass, pardon. Ces référendums-là, ça va permettre à la Russie de dire... Ces gens-là sont russes, ils se sont déclarés russes. Si vous les attaquez, vous attaquez la Russie. Donc, on monte le ton encore une fois. Et puis, on fait cette menace nucléaire dont j'ai parlé sans prononcer le mot nucléaire, mais en disant on va utiliser toutes les armes dont on dispose.
Réaction, évidemment, à travers le monde. Même la Chine a pris ses distances.
Oui, ça, c'est très important.
C'est majeur. Et le président Biden, qui s'adressait aux Nations Unies, a aussi réagi rapidement.
Oui, il était d'une fermeté. Hein. Il a dit d'abord, en envahissant l'Ukraine, la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, cofondateur des Nations Unies après la Deuxième Guerre mondiale, a violé la Charte des Nations Unies. L'objectif de Poutine est de mettre fin au droit de l'Ukraine d'exister. Donc, c'est énorme, ces paroles-là. Et il dit surtout, si des nations aujourd'hui peuvent poursuivre leurs ambitions impérialistes sans subir de conséquences, tout l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale va s'écrouler. C'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place pour empêcher que des situations comme celle qui avait donné naissance à la première et à la deuxième guerre mondiale. Alors, c'est une grave crise au sein des Nations Unies, au sein des organisations internationales aussi. Il a appelé le président Biden, les 141 pays qui, au début de l'invasion, avaient condamné l'invasion, à faire quelque chose, à se joindre, parce qu'il y a toujours cette volonté, si M. Poutine augmente les efforts, il faut pouvoir le contrer. Et la façon de le contrer, la meilleure possible, c'est la solidarité des alliés de l'Ukraine. Et puis le président Zelensky, on l'a vu, qui a eu un accueil, il était en vidéo évidemment, qui a eu un accueil quand même, une standing ovation, comme on dit en chinois, après son intervention. Il a appelé à punir la Russie et il suggère, et ça c'est important, de retirer son droit de veto à la Russie, au Conseil de sécurité. Je vais t'en parler dans deux secondes. Dans tout ça, il y a des signes d'espoir. Tu as parlé de la Chine, mm-hmm. qui dit maintenant il faut avoir un accord de paix, il faut négocier. Le président Erdogan de Turquie, qui a dit à PBS, après avoir rencontré Poutine à Samarcande la semaine dernière, qu'il sent, il y a tous les signes, que Poutine a besoin d'une solution rapide. Ça, c'est en contradiction avec ce qu'il annonce, mais c'est une bonne indication parce que le président Erdogan est vraiment un intermédiaire dans tout ça. Et puis, il y a eu hier deux échanges de prisonniers majeurs. Un échange qui a été négocié par l'Arabie Saoudite et puis un autre échange de 200 soldats ukrainiens, dont des membres de la fameuse brigade d'Azov dont on a parlé au début, qui était à Mariupol, contre des soldats russes et contre l'oligarque russe Viktor Medvedchuk, qui était détenu à Kiev, qui est un ami de Poutine. Donc, on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent dans tout ça, mais la situation montre que M. Poutine, de plus en plus, perd ses alliés, s'il en avait.
Ce qui est intéressant, pardon, c'est de voir aussi Biden qui dit aux alliés, là, on s'est serré les coudes, mais il faut que ça continue. Puis beaucoup de gens se posent la question, mais les Nations Unies, la Charte, ces organismes internationaux servent à quoi si un de ses membres peut envahir un autre pays?
Tout à fait. Puis le Conseil de sécurité qui est bloqué par le fait que la Chine, la Russie utilisent leur droit de veto pour tout arrêter. Et ça, c'est la grande crise des Nations Unies. Le secrétaire général Guterres avait dit la veille, on est dans une époque, là, il y a énuméré là, tu sais, les crises environnementales, guerres importantes en Europe, etc., etc., crise économique, crise énergétique dans le monde et tout ça. Et pourtant, on n'a pas de moyens de résoudre ces choses-là parce que, au sein même de l'ONU, les blocs ne se parlent plus ou ne se parlent pas. Alors, c'est ça, le président Biden lui dit que ce sont les autocrates et les démocrates, c'est son fameux slogan, là, qui arrive plus à s'entendre. Mais c'est vrai qu'on n'est plus capable d'avoir au sein de l'ONU des compromis. Et c'est pour ça que même le président Biden, qui lui, faut pas oublier là que c'est son prédécesseur, Donald Trump, a tout fait pour paralyser puis pour nuire aux Nations Unies auxquelles il ne croyait pas. Il croyait pas à la globalisation, il croyait pas à plein de choses que ça. Il a voulu faire un retour des États-Unis vers eux-mêmes. Ben, le président Biden a dit hier, il faut qu'on revoie la question des droits de veto au sein du Conseil de sécurité, puis qu'on augmente le nombre de membres permanents pour refléter la situation actuelle. Donc, ça, c'est un rêve, c'est une réforme qu'on veut faire des Nations Unies, mais on est rendu là, peut-être qu'il faut cette solution-là.
Parlons du président, enfin, l'ex-président Trump. Alors, c'est quand même un coup dur, là. C'est une poursuite intentée contre lui. Le mot fraude est là, et c'est la famille. Autrement dit, il a comme surévalué ses actifs de façon frauduleuse pour aller chercher des prêts.
C'est énorme et c'est une enquête qui a duré 2 ans de cette dame, Mme Laetitia James, qui a fait, j'ai vu cette conférence de presse là hier, c'est vraiment impressionnant, et qui accuse le président et 3 de ses enfants, Don Jr., Ivanka et Eric, de manipulation d'évaluation au détriment des locataires, des assureurs et des autorités fiscales. Elle demande en plus à la Cour suprême de l'État de New York de leur interdire, s'ils sont condamnés, parce qu'ils vont y avoir un procès, il y a une poursuite, donc il va avoir, mm-hmm. la Cour va entendre la poursuite. Si ils sont condamnés, c'est pas des condamnations criminelles, mais c'est une condamnation civile, de malversation. S'ils sont condamnés, elle demande qu'on interdise à la Trump Corporation de faire toute forme de transaction dans l'État pendant 5 ans. C'est très important, effectivement, ouais. Mais il faut le voir dans une perspective où il y a beaucoup de choses qui s'accumulent. L'enquête sur le 6 janvier continue. Les fameux documents du FBI qui ont été saisis à Mar-a-Lago. Il y a un juge encore hier qui a permis... Trump essayait de confier tout ça à une sorte de tiers indépendant, et ça ne fonctionnera pas. Donc, on va continuer à travailler à partir de ces documents-là pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ça. Ça, c'est une enquête du FBI. Donc, on peut imaginer, avec tout ça qui s'accumule, d'abord, quel va être l'impact de ça sur les midterms, puisqu'il appuie tellement de gens, mais aussi, est-ce qu'à terme, là, ça ne nuira pas à cet objectif qu'il a quand même encore aujourd'hui d'être candidat à l'élection en 2024.
En terminant, il faut en parler, la situation en Iran, après la mort d'une jeune kurde de 22 ans, Mahsa Amini, elle est décédée dans un poste de police, ce qu'on appelle la police de la moralité.
Oui, mais c'est important.
Puis on a vu la réaction de beaucoup, beaucoup de femmes qui laissent tomber le voile, se coupent les cheveux. Puis on a vu aussi les opérations de bastonnade.
Oui, il y en a eu des révoltes en Iran depuis des années. Là, on a un gouvernement extrêmement conservateur, le gouvernement du président Raisi, et qui, c'est la peur des ayatollahs, c'est effectivement que si on relâche la discipline religieuse, là, tout le reste, ça va être une débâcle et tout ça. Mais ça fait 43 ans, 42 ans que l'Iran vit sous cette espèce de régime absurde de moralité religieuse, une police de la moralité qui est plus amorale que tout le monde, à preuve la façon dont cette dame-là apparemment a été traitée. Le gouvernement a dû s'excuser auprès d'on dit que le président a parlé au père de la jeune fille. C'est un autre déclencheur d'une révolte qui gronde et qui bouillonne en Iran depuis des années. Mais cette fois-ci, elle est accentuée par quoi? L'Iran, comme d'autres pays, comme l'Inde et tout ça, c'est des pays où la proportion des jeunes est immense. Il y a une inflation qui dépasse les 40%, un chômage endémique chez les jeunes. Les jeunes n'en peuvent plus. Alors, quand la police de la moralité s'attaque à cette jeune femme, qui est une jeune de la minorité kurde iranienne. C'est des gens qui, sur le plan religieux, sont beaucoup plus libéraux que les musulmans chiites, la grande majorité iranienne. Donc, qu'on s'en prenne encore une fois, après toutes ces années, à cette jeune femme qui était venue s'amuser littéralement à Téhéran. Téhéran, c'est la grande capitale. Et on dit qu'elle avait simplement mal mis son voile. Ça devient, cette situation-là, absurde, d'autant plus que elle révèle une situation catastrophique de la jeunesse, un manque d'espoir dans cette société-là. Il faut imaginer l'Iran, Paul, c'est un pays extrêmement subtil, c'est une vieille civilisation. Les gens sont ouverts sur le monde, et c'est pour ça que dans ces cas-là, la première chose que le gouvernement fait, à part la répression violente, c'est de fermer l'Internet. Parce que ces gens-là communiquent avec le monde et ils veulent vivre comme le reste du monde.
Jean-François, merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
Alors, c'est le deuxième débat des chefs ce soir à Radio-Canada 20h. On a tous tiré nos conclusions de cette première confrontation entre les chefs. Beaucoup ont dit que Saint-Pierre Plamondon, Nadeau-Dubois avaient été probablement les meilleurs, que le premier ministre Legault s'en était plutôt mal tiré, autant dans les propos que dans le langage du corps. Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois, est avec nous. Monsieur Duceppe, bonjour.
Bonjour.
Bon, alors ce soir, qui a le plus à perdre encore une fois? Et d'après vous, les chefs vont se comporter de quelle façon?
Ben, écoutez, les chefs doivent se rappeler que la démocratie, fondamentalement, c'est pour chaque personne d'accorder son droit de parole et de vote à une personne qui siégera à l'Assemblée nationale, parce que tous ne peuvent pas être là. Or, si on a une telle attitude, ça veut dire qu'on affiche ses convictions, qu'on apporte des propositions qui sont conséquentes, qui correspondent à ses convictions, qui sont cohérentes. Il faut rester respectueux des adversaires, ce qui n'empêche pas d'être combatif. Et relever les contradictions chez les adversaires. Cela étant dit, comme pour le premier débat, je pense que il y a quatre chefs qui luttent pour finir deuxième, et que M. Legault pourrait perdre quelques sièges. Il a mal performé au premier débat. Il fera peut-être mieux, on verra. Mais ce serait excessivement surprenant qu'il ne gagne pas cette élection. Donc, la question se pose, c'est de savoir s'il va avoir 80, 90 ou 100 députés. Imaginez. Or, donc, les autres luttent pour savoir qui finira deuxième. Et en ce sens-là, doivent démontrer qu'ils sont capables d'affronter celui qui sera premier ministre. Or, comment agir dans ce contexte-là? Il y a des luttes à deux selon les régions qui sont différentes et qui n'impliquent pas les mêmes partis. Ça devient excessivement compliqué. Et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux agir en s'attaquant au premier ministre, mais en s'attaquant, je le dis de façon pondérée, c'est pas un combat sauvage.
Non, on comprend.
Mais bien plutôt démontrer qu'on est les mieux placés pour affronter celui qui sera premier ministre.
Bon, c'est un peu ça ma question, parce que est-ce que si je m'appelle Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, je veux montrer aux Québécois que c'est moi qui ai le meilleur pour faire face à François Legault, ou si j'essaie de nuire à Saint-Pierre Plamondon, à Duhem, à Dominique Anglade, en disant, regardez, ils sont pas bien bons, c'est moi le meilleur?
Ben, moi, je pense qu'il serait plus logique et plus responsable de démontrer lors de ce débat ce que l'on pourrait faire en chambre. Et en chambre, c'est pas s'attaquer à un autre chef d'opposition, mais bien plutôt au premier ministre qui est à la gouverne. Et démontrer que ce qu'il propose ne va pas dans le sens que ce que l'on propose, bien que très souvent, ça va dans le même sens aussi, il faut pas oublier ça, là. Il y a souvent des unanimités à l'Assemblée nationale ou convergence des points de vue. Alors, il faut relativiser ces choses-là. Mais moi, je pense que quand on regarde les chiffres, le PQ a progressé, va tenter de faire mieux. Mais il y a des châteaux forts libéraux qui existent encore, beaucoup moins qu'auparavant. Or, quand Madame Anglade appelle au vote stratégique, le vote stratégique, là, c'est pas pour la première place, là. J'espère que c'est ça qu'elle pense. C'est pas ça qu'elle me peut dire, mais elle doit réaliser qu'elle n'a pas de chance de terminer première, là.
Est-ce que vous pensez qu'on va aborder plus sur le fond un certain nombre de questions? Je peux penser à l'éducation, parce qu'on a beaucoup parlé dans le premier débat des engagements d'un et l'autre et des promesses sur les réductions de taxes ou sur des taxes additionnelles. Avez-vous l'impression qu'un forum comme celui-là est propice à avoir des échanges sur l'avenir du réseau de la santé, ou s'il faut s'en tenir, je dirais, à des morceaux de programme?
Ben, il y a toujours moyen, en partant des morceaux, d'aborder l'ensemble.
Hein? C'est vrai.
Si sur la santé, vous en mettez pas, c'est parce que vous en mettez trop sur le troisième lien. Hein? Voilà une façon de ramener ce débat-là, tout en parlant de la santé. Sur l'éducation, il y a moyen de dire, ben écoutez, regardez ce qui se passe. Vous auriez mieux fait de rendre le français obligatoire au cégep. On parle d'éducation, certes, mais on aborde aussi toute la question de la langue se faisant. Donc, c'est de faire les liens. Et les liens existent, là, il ne faut pas se le cacher. Et je pense que c'est l'ensemble de tout ça qu'il faut voir. Quand on dit on n'a pas assez d'argent, ben en même temps, si on construit des maisons pour les aînés à 800 000 $ de la chambre, pour une chambre, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup pour rénover les CHSLD où est la majorité. Alors tout ça, vous voyez, il y a des liens. Il s'agit de bien les faire sans s'écarter trop du sujet, là.
Monsieur Duceppe, merci beaucoup, puis on va se reparler demain, au lendemain de ce débat. Gilles Duceppe, l'ancien chef du Bloc québécois.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, Radio-Canada nous dit ce matin que l'hôpital Pierre-Boucher-Longueuil fait l'objet d'une enquête. Il y a même une cellule de crise qui a été mise sur pied parce qu'on a découvert un super champignon mortel. Alors, il y a eu éclosion. Ce qui préoccupe, semble-t-il, c'est que ce ne sont pas des gens qui rentraient de voyage. Et c'est un cas qui semble plutôt rare. Et dans l'article de Thomas Gerbet, ben, on dit que ça peut être mortel dans un bon nombre de cas. Je vais en parler avec le docteur Julie Oukapou, qui est microbiologiste, infectiologue et officier de prévention et de contrôle des infections à l'hôpital Pierre-Boucher. Docteur Oukapou, bonjour.
Bonjour.
D'abord, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que ce champignon, là, ce super champignon?
Le Candida auris, c'est une levure et c'est une levure qui peut se transmettre par contact direct et indirect à travers les surfaces, mettons dans les chambres de patients à l'hôpital. C'est sûr que dans notre cas, c'est des patients qui avaient ça sur la peau, des patients colonisés ou porteurs de ça, mais on n'a pas eu des patients infectés au Candida auris. Et c'est là qu'on s'inquiète plus si les patients deviennent infectés parce que, c'est un champignon, c'est une levure qui est un peu plus difficile à traiter. Elle peut être résistante à certains antifongiques.
OK. J'essaie juste de comprendre quand vous me dites parce que il y a des infections, c'est plus préoccupant. Expliquez-moi pourquoi.
Mais si quelqu'un devient infecté, alors il y a des symptômes d'une infection à Candida auris, c'est sûr que notre préoccupation, c'est que ce type de candida-là, de levure, est plus difficile à traiter. Il y a moins de classes d'antifongiques potentiellement qui pourraient fonctionner.
OK. Est-ce que c'est rare, ce super champignon? Est-ce que c'est des cas qui apparaissent dans d'autres hôpitaux? On a tous évidemment connu l'assez difficile, là, mais qu'est-ce qu'il y a de différent?
Il y a beaucoup de pays au monde qui ont des éclosions de Candida auris. Je pense au Québec, c'est plus rare. On a eu quelques cas dans le passé qui ont été acquis de voyage, finalement. Alors, oui, c'est plus rare au Québec. C'est pour ça qu'on a mis des mesures en place très rapidement lorsqu'on a trouvé un premier cas suspecté.
OK. Il y a combien de cas à l'hôpital Pierre-Boucher?
On a deux patients qui sont considérés porteurs, une qui est malheureusement décédée, mais il n'y a aucun lien avec le décès et le fait d'avoir été porteur du candidat.
OK, bon, on présume qu'ils sont à l'hôpital, donc ils ont des enjeux de santé, des patients plus vulnérables, soins, système immunitaire plus faible.
Exact.
Et comment on traite ça dans l'hôpital? Est-ce qu'il y a des opérations de prévention qui se font?
Absolument. Alors, aussitôt qu'on a trouvé le premier cas suspect le 8 septembre, on a mis des mesures de prévention et contrôle des infections en place. Alors, on a isolé les cas suspects et leurs contacts étroits. Et puis, on doit porter comme une blouse, des gants, lavage de mains rehaussé partout pour ça. Et puis, on fait la désinfection au chlore. Et les employés concernés ont été avisés à ce moment-là aussi de la situation. Alors, c'est sûr que présentement, la situation est très circonscrite. Ce n'est pas un problème étendu du tout. Et puis, on a même fait des tests pour les autres patients sur l'unité concernée et à date, tout est revenu négatif.
Bon, j'ai eu des courriels ce matin d'employés de l'hôpital Pierre-Boucher qui me disent, là, on l'apprend par les médias. Vous avez dit, on a parlé aux employés concernés, mais pourquoi ne pas l'avoir dit à l'ensemble du personnel?
Bien, premièrement, on avait une première souche qui était, quand on a découvert la première souche, c'était un cas suspecté. Le protocole qu'on doit suivre, c'est qu'on doit toujours envoyer les souches au laboratoire de santé publique pour la confirmation. On n'avait pas d'éclosion encore, vu que ça prend deux patients pour avoir une éclosion. Quand on a finalement eu l'éclosion confirmée, c'était juste le 19 septembre, on a rencontré les équipes concernées à ce moment-là. Et c'est sûr que éventuellement on va vouloir diffuser de l'information, mais le problème est tellement circonscrit pour le moment qu'on voulait mettre notre attention sur les unités concernées.
OK. Mais est-ce que ça veut dire que pour les autres employés, là, il y aura, je dirais, une procédure à suivre, le port d'équipements de protection? Est-ce que quelque chose va changer dans leur vie?
Non, pas du tout.
Non.
Alors, sur les autres unités de soins, on n'a aucun problème. C'est encore une fois un programme très circonscrit de deux patients. Alors, pour le moment, il y a aucune autre mesure. Même sur l'unité en question, on met des mesures en place préventives, vraiment la désinfection, l'isolement des cas qui ont été en contact, etc. Mais sur les autres unités de soins, il n'y a rien à faire.
OK. Et je pose des questions que mes auditeurs m'envoient, là, c'est-à-dire, je suis en attente d'une chirurgie dans deux semaines à Pierre-Boucher. Est-ce qu'il y a un enjeu différent maintenant?
Non, il n'y a aucun enjeu différent. Il n'y a pas d'inquiétude. Ça se transmet pas par l'air. C'est transféré par contact direct ou indirect. Encore une fois, problème très circonscrit. La désinfection est rehaussée, au chlore mise en place. Et puis, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça.
Est-ce que vous savez, dans le cas des deux patients, comment ils ont été en contact avec ce champignon?
On est en train encore d'investiguer la source du candidat Oris. J'ai pas les informations complètes encore de l'investigation.
Mais ce qui est particulier, c'est que ce sont des gens qui ne revenaient pas de l'étranger.
Oui, exact. C'est pour ça qu'on doit investiguer un peu plus pour savoir d'où c'est venu.
Puis, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres cas qu'à Pierre Boucher au Québec?
À ma connaissance, il n'y en a pas actuellement d'autres cas, non.
OK. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Il n'y a pas de problème.
Au revoir, docteur Julie Okapu, qui est microbiologiste, infectiologue et officier de prévention et de contrôle des infections à l'hôpital de Pierre Boucher.
C'est 23.